VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manelakiza avec vous dans ce bulletin d'information. Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a lancé aujourd'hui le dialogue national inclusif devant 3000 personnes à Bamako. Il a tendu la main à la société civile, à l'opposition et aux groupes armés pour tenter de dégager des réponses autres que militaires à la crise qui va s'aggravant dans son pays en guerre contre les djihadistes, mais beaucoup refusent de la saisir, notamment ses principaux opposants. Et le parti du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, a dénigré ce dialogue comme une mise en scène. Les adversaires de M. Keïta voient dans ce dialogue le moyen pour lui de reprendre la main après un automne sanglant, plus de 140 soldats tués depuis septembre, durant lequel les autorités ont peiné à convaincre de leur capacité à répondre à la crise. Les chefs d'État des pays du G5 Sahel vont se réunir demain pour un sommet extraordinaire à Niamey pour se concerter après la tuerie d'Inates, ont annoncé aujourd'hui le Mali et le Niger, pays qui a enterré hier 71 de ses soldats tombés sous les balles de ceux qui veulent installer le chaos. Notre solidarité ne fera pas défaut au Niger demain avec tous les chefs d'État du G5 Sahel, a déclaré Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien. Et le président tchadien Idriss Déby Itno va participer à la réunion. Le Burkina Faso, qui assure la présidence tournante du G5 Sahel, n'a pas encore communiqué au sujet de cette réunion. Cette attaque, la pire de l'histoire de ce pays sahélien, a été revendiquée par le groupe État islamiste. Les chefs d'État du G5 Sahel avaient déjà prévu de se concerter avant de se rendre au sommet de Pau dans le sud-ouest de la France à l'invitation du président français Emmanuel Macron, depuis reporté à janvier à la suite de l'attaque d'Inates. Le président français souhaite reclarifier le cadre et les conditions politiques de l'intervention militaire française dans la région. Sa présence suscite une contestation grandissante parmi les populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger. 6 civils ont été tués dans une attaque contre la ville de Beni, dans le nord-est de la RDC, où l'armée a installé son état-major pour lutter contre les groupes armés, ont indiqué samedi le parquet militaire et des témoins. Omar El-Béchir, destitué en avril par l'armée sous la pression de la rue après 30 ans au pouvoir, a été condamné samedi à 2 ans en centre correctionnel pour corruption, première condamnation pour l'ex-dictateur soudanais, dont les ennuis judiciaires pourraient continuer. Outre les graves accusations de crimes dans le conflit du Darfour portées contre lui par la Cour pénale internationale, M. Béchir pourrait avoir à répondre d'autres affaires devant la justice de son pays. Il fait l'objet d'une enquête et se retrouve sous le coup d'un mandat d'arrêt pour son rôle dans le coup d'État de 89 qu'il a porté au pouvoir. Il restera dans la prison de Kober à Khartoum jusqu'à ce que la justice se prononce sur notre affaire le concernant des meurtres commis lors des manifestations ayant conduit à sa chute, annoncé samedi le juge Al-Sadek Abdelrahman. La bataille des faits divise les États-Unis. Y a-t-il une vérité républicaine et une vérité démocrate à Washington? Les divergences politiques vont bien au-delà des opinions et on s'y déchire jusque sur la description des faits eux-mêmes, parfois les plus basiques. Il y a toujours eu des divergences d'opinion entre progressistes et conservateurs aux États-Unis, rappelle Richard Hazen, professeur de droit et de sciences politiques à l'Université de Californie à Irvine. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de désaccords sur les faits qui sont pourtant avérés, comme la réalité du changement climatique ou l'ingérence documentée de la Russie dans la présidentielle de 2016. Dans les passions générées par la procédure de destitution contre Donald Trump, insurgissent les notions de faits alternatifs ou de faits contestés. Il est parfois difficile de savoir où se trouve la réalité. Les sondages montrent un fossé entre républicains et démocrates sur l'état du monde, explique M. Hassan, selon qui les États-Unis sont entrés dans une ère de post-vérité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bien bienvenue à bord.
Les passagers de Alan Show sont priés de monter à bord. Alan Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité.
Les amis, ici c'est votre gars Roger Moutou en direct de Washington. Nous allons découler aujourd'hui avec les Rolling Stones. Aujourd'hui c'est samedi, R&B and Rock. Aujourd'hui c'est beaucoup plus rock et on décolle avec ce morceau.
Thank you.
Bonne musique aujourd'hui, les amis. Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VOA Afrique. On est ensemble, 001-202-619-3140 de Rolling Stone. Et bien sûr, de Rolling Stone, connu parce que c'est pas un groupe comme les autres, hein. Ça, il faut quand même le dire. C'est un groupe qui a cartonné beaucoup pendant plusieurs années et que les amis d'Abidjan, de Kinshasa, de Libreville ont beaucoup adoré les chansons de Rolling Stone. Et d'ailleurs là, je suis en train de lire quelques messages des amis qui sont en train de nous capter en direct de Kinshasa, Cape Town. Et là, je vais parler d'abord de Alphonse Mbouaki qui nous capte en direct de Cape Town, Kinshasa, qui parle aussi de Rolling Stone. Vous savez, le Rolling Stone, c'était un groupe de rock britannique formé à Londres en 1962 par le guitariste et leader original Brian Jones, le pianiste Ian Stewart, les chanteurs Mick Jagger, qu'on connaît tous, hein, une grande star, et le guitariste Keith Richards, le bassiste Bill Wyman et le batteur Charlie Watts, qui les rejoignent aussi ensuite et complètent la formation originale. Jagger et Richards constituent rapidement un duo, hein, on doit le dire, d'auteurs-compositeurs, et prennent peu à peu la direction du groupe en lieu et place d'un Brian Jones de plus en plus erratique. Ian Stewart, jugé peu apte à jouer les idoles des jeunes, selon les préférences de l'époque, hein, est renvoyé du groupe. Hein. Déjà, il faisait partie du groupe, mais il a été renvoyé après en 1963, mais continuera à travailler avec les Stones comme road manager. Voilà, un manager qui les accompagne dans des tournées et clavieriste aussi, jusqu'à son décès en 1985. Le nom du groupe, The Rolling Stone, vient d'une chanson de Muddy Waters, Rolling Stone, choisie par Brian. Le blues a toujours été la source d'inspiration principale des Stones, qui ont été l'un des principaux acteurs du retour de cette musique sur le devant de la scène à travers le British Blues.
Boy, it's mine. Ain't it fine? Ain't it?
musique à partir de 1966 et de l'album Aftermath, les chansons des Jagger et Richard Ambili par les expérimentations instrumentales de Brian Jones développent une diversité stylistique, on doit dire, qui restera présente jusqu'à nos jours. Hein. Jones meurt noyé dans sa piscine en juillet 1969, peu de temps après avoir été renvoyé du groupe. Il est remplacé par Mick Taylor qui participe à l'enregistrement de 5 albums studio avant de quitter les Stones en 1974. L'ancien guitariste de Faces, Ronnie Wood, prend alors sa place et la conserve depuis lors. Billy Wayman quitte à son tour le groupe en 1993. Le bassiste Daryl Jones rejoint alors le groupe sans en devenir un membre officiel. Les Rolling Stones, les amis, ont publié 22 albums studio au Royaume-Uni, 24 aux États-Unis, 8 albums live, 9 aux États-Unis et 32 compilations. En 2012, le groupe estime avoir vendu, écoutez, tenez-vous prêts, le groupe estime avoir vendu plus de 400 millions d'albums dans le monde. Aïe, 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 c'est pas petit. On écoute aujourd'hui le Rolling Stones. de la bonne musique aujourd'hui. Les amis, vous savez, ce groupe de Rolling Stones sont entrés, les Rolling Stones, comme ils appelaient, hein, tout ça, sont entrés au Rock and Roll Hall of Fame en 1989 et Mick Jagger a été anobli par la reine d'Angleterre en 2002. Leur image de mauvais garçon rebelle véhiculé dans les années 1960 est une référence majeure pour les générations de musiciens rock qui les ont suivis après plus de 50 ans de carrière. Les Stones, tous septuagénaires, hein, comme on doit dire, continuent à se produire sur scène et avec succès dans le monde entier et ne manifestent aucune intention de mettre un terme à l'existence du groupe. On est en train de déguster, bien sûr, ce morceau de Rolling Stones. Ce sont les stars, vraiment, vraiment les stars, on doit le dire, hein, beaucoup de respect. Je rappelle que ce groupe comprenait Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Ian Stewart, Charlie Watts et Bill Wyman.
Thank you.
la bonne musique que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui dans RM Show, une émission de VOA Africa. Les Stones symbolisent la vitalité de l'état pur et c'est pourquoi ils sont toujours présents aujourd'hui. Ça, c'est une citation de Martin Scorsese qui a parlé ainsi, qui pense ainsi, bien sûr, de Rolling Stone. Les Stones sont véritablement le plus grand groupe de rock de la planète et ils le seront toujours. Ils seront aussi les derniers.
Bienvenue à bord.